Samedi dernier, lors des manifestations, de nombreux journalistes ont été insultés, conspués, maltraités et parfois molestés en place publique. À Bourges, le reporter de BFM TV s'est vu exhibé comme une prise de guerre par un groupe de gilets jaunes. À Rouen, l'équipe de tournage de LCI a été agressée. À Toulouse, la journaliste de la Dépêche du Midi a été menacée de viol alors qu'elle se trouvait dans sa voiture. À Valenciennes, des feux de poubelle ont été déclenchés derrière les bureaux de la Voix du Nord dont la distribution avait été bloquée. À Toulon, deux journalistes vidéo de l'AFP ont été menacés, etc. Même si pour l'historien Alexis Lévrier, la haine des médias n'a rien d'inédit et que la méfiance à l'égard des journalistes est aussi ancienne que le journalisme lui-même, pour le secrétaire général de RSF, Reporters sans frontières, Christophe Deloire, un cap a été franchi. Alors s'il convient de distinguer la violence injustifiable de la critique indispensable, ce que nous vivons a au moins le mérite de pousser les médias à débattre, peut-être plus souvent qu'ils ne le faisaient jusque-là, et à s'interroger sur le sens de leur travail quotidien, sur leur fonction et sur la façon dont ils font leur métier. Les raisons de la colère, c'est le premier volet d'une série de deux dans la fabrique médiatique. Aujourd'hui avec Aude Lancelin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de Le Média, vous avez été directrice adjointe de la rédaction de Marianne de 2011 à 2014 et directrice de la rédaction de l'Obs de 2014 à 2016. Et Thierry Fioril, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes journaliste au service culture de France Info et président de la société des journalistes de cette même chaîne qui a publié un communiqué avant l'acte 9, c'est-à-dire avant samedi dernier, un communiqué dans lequel vous appeliez à débattre. Alors première question à tous les deux, comment en est-on arrivé là? On va évidemment pas rester sur la question des violences, mais puisque c'est notre point de départ, comment en est-on arrivé là à ce que les journalistes soient les boucs émissaires d'une exaspération sociale, qu'ils soient obligés d'aller travailler avec des gardes du corps? Aude Lancelin.
Moi, il s'agit évidemment des conséquences désastreuses d'un système que je dénonce depuis quelques années. La liberté de la presse est, comme je le dis souvent, est menacée dans notre pays par ses propriétaires, par le fait que 90% des gens qui possèdent la presse sont des actionnaires du CAC 40 en affaire avec l'État et donc ont un discours à l'unisson au minimum de celui du pouvoir. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, s'en prendre aux personnes est évidemment odieux et injustifiable. Personne ne peut justifier des lynchages ou même des insultes ou des crachats ou des menaces dans la rue. Ça m'attriste beaucoup parce que je pense que mes confrères, les journalistes, sont eux aussi, comme les gilets jaunes, les victimes d'un système médiatique qui est très malade en France.
Pourquoi vous n'avez pas signé alors, Aude Lancelin, avec Le Média, la tribune collective d'une trentaine, je crois, cette semaine, d'organisations de sociétés de journalistes intitulée « La presse ne doit pas être un bouc émissaire ».
Je ne l'ai pas reçue. On me l'a pas envoyé. Je vous dis l'absolue vérité. Je ne sais pas qui sont les initiateurs. En tout cas, si on nous l'avait soumis, on en aurait débattu collectivement. Ça, c'est absolument certain.
Comment en est-on arrivé là, Thierry Fioril? La fin d'un modèle, la fin d'un système, les conséquences d'un système également?
Moi, les médias, pour moi, ça ne veut rien dire. La diversité de la presse en France est l'un des acquis de la démocratie. Et derrière le terme « les médias », il y a la volonté de globaliser des organes de presse qui sont très différents. Et c'est tant mieux. Le média auquel vous appartenez, Madame Lancelin, est un média d'opinion. Et c'est très bien. La presse d'opinion a toujours existé en France, même si la presse écrite va mal aujourd'hui. Mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les gilets jaunes et avec cette désaffection supposée des médias, qui est paradoxale en plus, puisque les audiences, par exemple, de notre groupe, de Radio France, n'ont jamais été aussi bonnes. Les chaînes d'information continuent, cartonnent, on pourra parler de la façon dont elles ont ces audiences-là lors de ces événements. Donc c'est un désamour assez étonnant. Dans la vraie ville, désamour, le vrai désamour, c'est l'indifférence totale et définitive. Là, il n'y a pas de désaffection. On est quand même encore avec un public qu'on a du mal à identifier, mais qui écoute et qui consomme beaucoup de l'information. Donc c'est assez paradoxal. Après, sur les raisons pour lesquelles on en est arrivé à cette violence, cela qui est totalement insupportable, injustifiable. Et il n'est pas question d'accepter des réponses du genre oui, mais c'est insultant, c'est méprisant et c'est inacceptable. La liberté de la presse est l'un des piliers de la démocratie. Il y a, je pense, dans les raisons, elles sont très nombreuses. D'abord, les politiques qui ont été les premiers à taper sur la presse. J'ai souvenir, dans les années 80, des premiers meetings de Jean-Marie Le Pen qui faisait siffler une tribune de presse. J'ai vécu personnellement ces moments-là où on doit quitter la salle sous les sifflets, les insultes, les crachats et les tapes sur la tête. C'est au milieu des années 80, et puis d'autres après, de l'affaire Fillon jusqu'aux propos de Jean-Luc Mélenchon, traitant les journalistes de France Info d'abrutis et parlant de saine haine des médias. Voilà comment, quelques mois après, on en arrive là.
Et Emmanuel Macron qui parle d'une presse aussi, qui ne cherche plus la vérité dans l'affaire Benalla, je pense que de tous bords.
Exactement.
Cette fois-ci, les responsabilités partagées, de ce point de vue-là, vous êtes d'accord, Aude Lancelin, les politiques, mais la critique radicale peut-être aussi à certains moments de journalisme dans les années 90, et puis évidemment les journalistes, certains journalistes qui font pas toujours très bien leur métier.
Moi, je pense que la pire réponse à cette crise, ce serait de se planquer derrière la liberté de la presse, qui est évidemment un bien très précieux à défendre, et de ne pas faire son autocritique, et de ne pas pointer ce qui va très mal dans notre...
Alors allons-y, qu'est-ce qui va très mal, qu'est-ce qui ne va pas ?
Vous savez, mais c'est les organismes internationaux, les classements de la liberté de la presse dans le monde, etc., mettent la France en très mauvaise position. On est loin d'être... l'îlot des droits de l'homme qu'on prétend encore être dans notre imaginaire. On est vraiment dans les profondeurs du classement. Et pourquoi on l'est ? On l'est parce que on a laissé les intérêts privés, on a laissé les grandes entreprises du CAC 40 racheter quasiment l'intégralité des médias.
Donc un problème de dépendance à l'égard
Bien sûr,
des pouvoirs économiques.
Je pense qu'il faut peut-être prendre un ou deux exemples concrets pour qu'on voit. C'est l'évidence même, si vous voulez. Quand Monsieur Bernard Arnault rachète d'un côté le premier quotidien économique de France, le plus influent, Les Échos, et de l'autre côté Le Parisien, c'est-à-dire un des derniers restes de la presse populaire, de la presse ouvrière de la petite couronne parisienne, vous vous doutez bien que ce n'est pas pour investir dans une activité déficitaire à fond perdu et qu'il compte en tirer quelques bénéfices. Récemment, il a injecté 20 millions d'euros dans Le Parisien. Vous vous doutez bien que ce genre de personnage investit dans les médias pour peser sur l'opinion et c'est redoutablement efficace. Je citerai l'étude qu'a faite des Unes du Parisien, de 10 Unes du Parisien pendant la crise des Gilets jaunes, le site Acrimed, Action Critique Média, c'est tout à fait édifiant. Le journal populaire, le quotidien populaire, celui qui devrait être le plus proche des préoccupations très concrètes de mobilité, par exemple, des Parisiens banlieusards, eh bien c'est celui qui est le plus hostile aux Gilets jaunes.
Thierry Fioril, c'est un reproche qu'on entend beaucoup, hein, l'indépendance alors à l'égard du pouvoir économique, bien évidemment, mais aussi à l'égard du pouvoir politique, même si les Gilets jaunes l'AFP et puis plébiscite de l'autre côté Rochatoudé, mais c'est un autre problème. Bon, mais cette question-là de l'indépendance, ajoutée au manque de représentativité dans les médias, ajoutée à la façon dont, pour parler des chaînes Tout Info, la hiérarchisation des informations est posée, la sélection des sujets, les images, par exemple montrer plutôt les émeutes à Paris que les discussions sur les ronds-points, les connivences, les privilèges, le suivisme, tout ça, c'est les questions qui fâchent et qu'il faut pouvoir poser aujourd'hui. Est-ce que, en gros, les reproches que les Gilets jaunes aujourd'hui font aux chaînes d'information et à la presse écrite sont tous illégitimes?
On a une heure pour débattre.
Ouais,
là,
à peu près. Je pose tout d'un coup, parce que sinon on n'y arrivera pas. On ne peut pas les lister un à un.
Ça fait quand même beaucoup de sujets.
Choisissez ce que vous voulez.
Non, mais on va essayer de les prendre peut-être un par un. D'abord, dire qu'ici, à Radio France, nous sommes dans un environnement de liberté et je mets au défi qui que ce soit.
Et d'indépendance.
De dire que nous sommes des valets de Macron, comme on l'entend en permanence, c'est totalement inacceptable et c'est insultant pour les centaines de journalistes de Radio France qui font très honnêtement leur travail. Sur ce que vous disiez, Madame Lancelin, sur le côté monopolistique de la presse française et qui est en grande partie dû à des problèmes économiques récurrents qui n'ont pas été réglés dans les années 70, 80, 90, de grosses difficultés pour se réformer, c'est tout à fait regrettable. On pourrait souhaiter en France, par exemple, des lois antitrust qui empêcheraient certains groupes industriels d'être à la fois dans des systèmes de mécanismes de marché public et en même temps de posséder des titres de presse. C'est un débat que l'on devrait avoir en France. Pour autant, je pense que les choses sont plus complexes que vous ne le dites. Je prends l'exemple tout simple, Libération, Monsieur Drahi. Quel est son intérêt aujourd'hui ? Est-ce que c'est de plomber un titre qui a un lectorat très particulier en lui faisant prendre un virage droitier, ce qui sera en conformité avec ses idées politiques ? Ou est-ce que c'est au contraire un industriel intelligent de se dire Libé a un public et donc on va garder une ligne éditoriale culturelle qui va dans un contexte très difficile parce que Libé perd beaucoup de lecteurs et est en situation économique très périlleuse et garder cette ligne. Hier, la une de Libé et les 6 premières pages étaient sur les violences policières et je vois mal...
Il était temps.
Non, mais ils l'ont fait déjà auparavant. Et je vois mal Drahi faire ça pour faire plaisir à Macron. Non, il le fait. Et d'ailleurs, il laisse faire la direction de Libé là-dessus. J'ai discuté pas plus tard qu'hier avec des journalistes de Libé qui ne se sentent absolument pas esclaves du Drahi système. Et il le fait parce qu'il sait qu'économiquement, il prendrait un risque absurde à modifier la ligne éditoriale de son journal.
Au-delà de cela.
Non, pour moi, cet argument ne vaut pas du tout parce que de toute façon, Libération est déjà un journal plombé.
C'est insultant de dire ça. Mais plombé par quoi ?
Non, plombé en termes de vente. Écoutez,
oui, ça oui, on est d'accord.
Oui,
c'est important de le signaler.
Non, mais oui. c'est factuel, c'est pas polémique ce que je dis. C'est un journal qui va très mal, Libé, qui ne se vend pratiquement plus. Donc, vous voyez bien que si Monsieur Drahi, homme d'affaires avisé, s'il en est investi dans une activité aussi déficitaire, ce n'est pas pour faire des affaires, ce n'est pas pour être un industriel intelligent, comme vous le dites. C'est pour peser sur l'opinion de la même façon qu'il a aussi investi dans BFM TV, moyen certainement plus efficace de fabriquer la dite opinion. Alors à côté de ça, que les journalistes de Libération se sentent libres, écoutez, très franchement, quand on voit leur histoire, être passé en 50 ans du Colmao au géant des télécoms low cost, très franchement,
c'était pas forcément mieux les Colmao.
Je ne sais
pas. De toute façon, il ne s'agit pas de faire le procès de Libération, de savoir comment ça se passe à Libération, mais bien justement plus largement, puisque vous avez posé cette question du pouvoir économique et de l'indépendance et qu'elle est fondamentale. Je vais maintenant aller sur les autres sujets, puisque je les ai listés tous en bloc. Vous êtes resté là-dessus, Thierry Fioril. Alors prenons-en d'autres, puisque je vais me fier à votre communiqué de la Société des journalistes qui a apparu donc avant l'acte 9, c'est-à-dire avant samedi dernier, c'est-à-dire il y a plus d'une semaine maintenant. C'était un appel à débattre, précisément. En un, vous vouliez débattre, et vous voulez toujours, j'espère pour vous en tout cas, et pour nous tous, de la place donnée à ces événements, les gilets jaunes pour ne pas les nommer, face au risque, dites-vous, d'hystérisation de l'info. Et deuxièmement, vous vouliez, et vous voulez toujours, débattre des choix éditoriaux. Est-ce que vous pouvez expliciter ces deux points ?
D'abord dire qu'une société de journalistes dans une rédaction de Radio France est quelque chose qui fait partie de la vie des rédactions. On n'a pas attendu les gilets jaunes pour le faire. Il se trouve que cette société des journalistes a été élue il y a un peu moins d'un an et que nous sommes très actifs et que nous avons de nombreux échanges avec la direction de France Info et que quand nous avons publié ce communiqué, mais qui est en fait le communiqué de la Société des journalistes de Radio France, parce que ça débat dans toutes les rédactions. Je fais une petite parenthèse rapide pour les 44 radios locales de Radio France où la situation est très dure, parce que la proximité fait que les journalistes sont connus, qu'on connaît leur visage, leur nom et parfois leur adresse.
Jusqu'à présent, pourtant, c'était le journaliste de proximité,
exactement.
C'était un journaliste qui avait une bonne image.
Depuis quelques semaines est absolument terrifiant, mais je reviens donc à ce qui se passe chez nous. Nous avons demandé ce débat et nous l'avions déjà demandé et entamé auparavant, dès la rentrée, avec Vincent Giré, le directeur de France Info, parce que dans une chaîne d'information continue, et même si France Info est la plus ancienne, on est né en 1986, on a un vrai savoir-faire qui est reconnu par tous. Il n'empêche que il y a, et nous sommes honnêtes là-dessus, et nous sommes ouverts à la critique, il y a ce qu'on appelle un risque d'hystérisation. C'est quoi le risque d'hystérisation ? C'est quand on balance un seul sujet qui va phagocyter toute l'antenne, donc par définition au détriment des autres, qui se trouvent complètement dévalorisés, et qu'on va les sourire dans tous les sens. Donc nous voulons avoir cette réflexion qui est capitale pour nous, de savoir à partir de quand nous partons à l'édition spéciale, est-ce qu'on part pas trop tôt et à partir de quand on s'arrête pour remettre dans la hiérarchie de l'information des sujets qui sont au moins tout aussi importants. Et il se trouve que ce mouvement nous interroge d'autant plus que oui, c'est un mouvement social important, mais soyons dans le fait, nous à France Info on est dans le factuel. Au plus fort des manifestations, 250 000 manifestants. Ok, le ministère de l'Intérieur, c'est son habitude, minimise les chiffres. D'accord. C'est-à-dire beaucoup moins que lors des manifestations contre la loi travail sous François Hollande, que 95 que j'ai vécu de très près, où le pays était entièrement bloqué. Donc ça pose question. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas avant tout une crise politique ? Est-ce que ce n'est pas finalement les réactions ratées d'Emmanuel Macron qui ont amené à cette situation ? Donc on traite quoi ? Et nous, à l'antenne, et Dieu sait si chacun est investi dans cette rédaction pour varier les sujets, on pose ces questions-là sur pas seulement, comme certaines chaînes d'info télé, se braquer sur les manifestations et attendre effectivement que ça pète sur les Champs-Élysées pour se dire on va faire de l'audience. On n'est pas du tout là-dedans, on cherche à diversifier. Donc on a ce débat. La réaction de la direction de France Info a été de nommer des journalistes référents dans la rédaction pour ouvrir ce débat et aller à des conclusions. Alors c'est un petit grand débat national et j'espère qu'il ne sera pas vain. Et nous avons même été reçus par la présidente de Radio France qui accepte aussi que nous débattions à l'interne, que nous débattions avec nos auditeurs. Et le plus difficile, et on va le faire, c'est de débattre avec ceux qui ne nous écoutent pas parce que nous sommes radio de service public et que ça fait partie de nos devoirs.
Et le débat est ouvert, hein, puisque jeudi 10, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a convié les chaînes de télévision d'information en continu pour parler notamment du temps de parole, de l'équilibre des points de vue, du choix des images. Des débats d'ailleurs ont aussi agité BFM TV. Idem à France Info, idem aux médias, Aude Lancelin, ce type d'interrogation, de remise en question permanente, est-ce qu'il vous agite aussi?
Oui, mais on a un journal en ce moment quotidien, hein, le soir, et la question se pose pour nous aussi de savoir, de garder un équilibre, de réinjecter de l'actualité internationale, de ne pas être entièrement englouti par un événement quel qu'il soit. Alors c'est vrai que nous, la problématique est forcément différente d'une grande de radio de service public, puisque nous apportons un discours que nous estimons être très différent de celui de nos confrères. Notre traitement du mouvement des Gilets jaunes est différent. C'est comme ça qu'on a parlé très précocement des violences policières. C'est comme ça qu'on a fait énormément tous les samedis depuis le 24 novembre des reportages sur le terrain, des paroles de Gilets jaunes très très concrètes, parce que nous estimions que le mouvement des Gilets jaunes, c'était pas les violences, c'était pas les casseurs sur les Champs-Élysées, que c'était quelque chose de très profond, qui montait vraiment d'une souffrance dans les catégories populaires, qui montait des frigos vides, qui montait de tout ce que nous, journalistes parisiens aussi, ignorions à plein d'égards. Et on l'a fait avec beaucoup d'humilité, aller sur le terrain, parler aux gens pendant des heures, des journées entières, etc. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a énormément traité les Gilets jaunes depuis 2 mois, c'est vrai. Mais parce que nous sommes un média alternatif, donc nous apportons un discours différent, donc complémentaire, et donc ça nous paraissait justifié d'un point de vue rédactionnel.
Média alternatif, dites-vous, c'est vrai qu'on voit d'ailleurs, quand on regarde par exemple votre journal de 20h, c'est l'autre 20h, tout est autre, hein, aux médias. Est-ce que le risque pour vous, qui est très différent fortiori d'une radio de service public. Mais est-ce que le risque pour vous, Aude Lancelin, n'est pas de confondre entre information et communication, de ne pas à un moment devenir le porte-voix, même si vous affichez que vous êtes un média d'opinion, mais le compagnon de route d'un mouvement? C'est-à-dire qu'il faut quand même à chaque fois rester dans garder vos distances.
Oui, bien sûr.
Surtout dans un mouvement on revendique d'être sans filtre, sans intervention, sans jugement critique.
Vous avez tout à fait raison. Il ne faut jamais se laisser engloutir par ses sources. Il ne faut jamais accepter une proximité, que ce soit avec un parti ou avec des représentants excessifs. Il faut toujours garder, quand on est journaliste, une certaine distance. Mais ce serait bien aussi que la plupart des médias dominants gardent, eux, leur distance avec le pouvoir.
Et vous estimez que vous le gardez par rapport à la France Insoumise? On accorde souvent le média et la France Insoumise.
Oui,
hein.
Alors très franchement, ce reproche-là, la question pouvait se poser tant que Sophia Chikirou, directrice de communication de Jean-Luc Mélenchon et cofondatrice avec d'autres personnes du média, était présente. Elle est partie dans des conditions extrêmement conflictuelles en juillet 2018. Et à cet égard, ce soupçon, ce fil à la patte est enfin tombé pour le média.
Thierry Fioril, demande de plus de direct, demande de plus d'horizontalité, demande de plus d'accessibilité. Est-ce que c'est des débats qui sont posés sur la table aujourd'hui, au-delà de ceux dont vous nous avez parlé?
Oui, bien sûr, mais la première réponse, elle est sur le terrain. La première réponse, c'est le travail de nos journalistes, de nos confrères, de nos consoeurs. Moi, j'ai été ravi la semaine dernière que la présidente de Radio France puisse entendre longuement la façon dont une journaliste reporter de France Inter passait des journées entières sur les ronds-points, comment elle avait obtenu l'autorisation de sa rédaction de ne pas y passer que quelques heures, mais parce que c'est très difficile de travailler sur les ronds-points, et donc ils ont accepté, et c'est très bien, qu'elle y passe beaucoup de temps, et son travail est honnête, remarquable, et tout à fait comparable à ce que vous évoquiez sur la nécessité de passer du temps sur le terrain, on le fait à Radio France.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour ce premier volet aujourd'hui sur l'état des lieux et les raisons de la colère, qui sera suivi, je le rappelle, d'un second samedi prochain, après la publication mercredi prochain du baromètre Lacroix sur la confiance dans les médias. Merci à tous les deux.